RCFM. France Bleu. RCFM, Christine Allouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans Les Experts, c'est Christine Allouzi. Mais quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Certains sont certainement en vacances, alors bonnes vacances à vous, pas d'excuses hein, pour ne pas être avec nous en direct de 9h30 à 10h30. Et puis pour les autres qui bossent comme nous, et on n'a pas de la chance, on circule super bien, il n'y a pas d'embouteillage, c'est le rêve. Et doublement le rêve parce que je vous ai concocté une semaine de dingue. Et on commence cette semaine avec une super experte. D'ailleurs le standard commence déjà à exploser. Lorsque j'ai annoncé que je la recevais aujourd'hui, mon téléphone et mes réseaux sociaux se sont enflammés. Il s'agit de la star de la pédagogie. Pédagogie alternative, l'icône des classes. Céline Alvarez est avec nous ce matin dans Les Experts. 04 95 32 22 22 pour réagir, témoigner ou poser toutes vos questions. Ou bien sûr sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Les Experts, 9h30, 10h30, Christine Allouzi.
Bonjour Céline.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir hein, dans Les Experts. Et puis, je pense que les auditeurs aussi sont ravis que vous soyez là ce matin.
Je suis ravie d'être là.
Petit retour en arrière, Céline, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes une simple citoyenne, comme vous aimez le dire. Une simple citoyenne entrée un petit peu par effraction dans le monde scolaire. C'est en chercheuse autodidacte, après des études de linguiste, que vous avez peaufiné votre démarche pendant presque 10 ans, hein, en véritable obsédée par l'échec scolaire. Vous avez passé le concours des écoles, avec toujours dans cette idée de faire bouger les choses. Démonstration faite lors de votre expérience à grande échelle à l'école maternelle de Gennevilliers, en classe ESEP, hein, en 2011. Tous les enfants peuvent apprendre facilement. Vous avez plaqué le système et consacré aujourd'hui votre temps à diffuser vos idées. Votre site fourmille de vidéos pratiques et fédère vraiment une vraie communauté de convaincus. 2016, premier best-seller, Les lois naturelles de l'enfant, publié aux éditions Les Arènes, issu de cette expérience prometteuse à Gennevilliers, un ouvrage fondateur hein, qui révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir son éducation à la maison et à l'école. Vous expliquez de manière limpide les grands principes scientifiques qui sous-tendent l'apprentissage et l'épanouissement. Vous partagez cette expérience, vos activités qui peuvent aider les enfants à développer leur potentiel ainsi que la posture adaptée de l'adulte. Un livre qui va se vendre en 3 ans à 220 000 exemplaires, c'est dire si le thème passionne. Et puis pas qu'en France, puisque vous avez été traduit en 16 langues et la démarche de la citoyenne française a séduit la Belgique. Et voilà, ce livre qui arrive, Une année pour tout changer, encore aux éditions Les Arènes. Ce livre, c'est le fruit de votre expérience belge, puisque vous avez été invité par la ministre de l'Éducation himself à accompagner 750 enseignants pendant une année scolaire. Alors la question que tout le monde se pose, c'est, elle vous a dit quoi la ministre belge?
Elle m'a invité à accompagner, en fait, à former au départ des enseignants belges qui étaient en demande pour comprendre comment se lancer, en fait, dans une telle démarche, celle que j'avais appliquée à Gennevilliers. Voilà, ça a commencé comme ça. C'était dans le cadre de la lutte contre le redoublement et l'échec scolaire en Belgique, qui est vraiment, qui atteint des sommets, quoi. En Belgique, à 15 ans, 45% des enfants ont déjà redoublé au moins une fois.
Bon, en France, on a trouvé une solution au problème, on fait plus redoubler, donc on arrive en sixième, on sait pas lire, on sait pas écrire, mais c'est pas grave, tout va bien. Donc vous arrivez en Belgique, 2 jours d'information théorique, vous avez partagé avec ces 750 enseignants une synthèse de la recherche scientifique sur le développement de l'enfant, et tout de suite après, vous leur avez demandé de trier leur classe, Céline Alvarez. Oui. Qu'est-ce que c'est, trier leur classe?
Oui, nous nous sommes en fait retrouvés 8 journées tout au long de l'année, le week-end. Et je tiens à dire que c'était une démarche citoyenne de la part de tout le monde, parce que les enseignants, même s'il y avait une invitation ministérielle à s'y inscrire, se sont vraiment regroupés le temps du week-end à leurs propres frais. Donc ça, c'est vraiment important, parce que on dit souvent que les enseignants, voilà, n'ont pas envie de, enfin, comment dire, un petit peu les marges, j'entends encore malheureusement. Faut bien comprendre que les enseignants sont en recherche d'outils concrets, et quand cela leur est donné, ils sont des rythmes à l'appel, quoi. C'est vraiment assez extraordinaire. Il y avait 750 personnes toute l'année. Donc oui, effectivement, pendant 2 jours, les 2 premières journées, j'ai fait un partage théorique, des informations, voilà, qui permettent de comprendre comment l'être humain s'épanouit et apprend, quels sont les grands leviers. Et ensuite, avant de commencer véritablement le changement de pratique, je leur ai demandé un tri un peu initiatique, en fait, c'est de se mettre face à la classe, à leur classe, mais ça peut être, on peut faire le parallèle avec les parents qui peuvent se mettre face à la chambre de leur enfant, et puis de véritablement d'entrer dans une confrontation honnête avec ce qu'il y a dans cette classe, dans cet espace, dans cette chambre, et de se poser la question, qu'est-ce qui véritablement là, dans cet espace, nourrit l'enfant?
Qu'est-ce qui est utile, en fait?
Va l'engager? Comment?
Qu'est-ce qui est utile, en fait?
c'est plus qu'utile. C'est qu'est-ce qui va le nourrir, qu'est-ce qui va engager chez lui un effort cognitif soutenu, qui va réveiller son enthousiasme et sa persévérance, qui va lui donner envie de recommencer, même s'il s'est trompé, pour atteindre un objectif, et qui va l'enthousiasmer véritablement, mais pas un enthousiasme superficiel, un enthousiasme profond. Vous savez, celui qui fait que quand il quitte l'école, il sait déjà le soir même ce qu'il va faire le lendemain. Il dit je vais revenir, je vais faire ça. Et le matin, lorsqu'il arrive à l'école, il fonce directement sur l'activité en question pour recommencer. Voilà, c'est ça, c'est un enthousiasme endogène.
Donc on relève le niveau des activités. Hein. C'est vraiment le premier travail que vous avez réalisé en arrivant aux côtés de ces instituteurs. Ça a été de relever le niveau des activités pour apporter du challenge vraiment à l'intelligence globale et exécutive des enfants. Les enfants se fatiguent, Céline Alvarez, des choses qui les nourrissent pas.
Tout à fait. Ça les épuise. Et puis, au-delà de les épuiser, avant même qu'ils s'épuisent, ils finissent par se décourager, comment dire, leur attention se détourne. Et comme ils doivent de toute façon entrer dans un effort cognitif soutenu, puisque c'est toute leur biologie humaine qui le leur demande pour et développer leur intelligence pour la construire, eh bien ils vont trouver des façons, chercher à la développer, à s'engager dans un effort cognitif soutenu à leur manière. Donc ils vont détourner ces activités, les casser, les jeter en l'air, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. Et il ne faut pas s'étonner de les voir détourner, abîmer, casser, détériorer du matériel qui n'est pas du tout à leur niveau. Et là, je ne parle pas de surstimulation, c'est très très important. C'est même pas la stimulation, c'est simplement nourrir l'être humain qui est en plein déploiement de son intelligence à ce moment-là. Et pourquoi je demande aux enseignants d'avoir cette confrontation dès le départ avec l'environnement de l'enfant? C'est parce qu'on se rend compte. Et c'est ça, le point de départ de l'accompagnement, et je pense de cette démarche-là, pour bien se lancer, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas grand-chose. Quand on met dans le couloir tout ce qui ne nourrit pas l'enfant, tout ce qu'on a jugé effectivement pas très efficace, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a plus grand-chose dans la classe. Il n'y a plus grand-chose dans les chambres des enfants qui les nourrissent véritablement. Et on voit là l'état des choses. On comprend le malentendu.
Mais de toute façon, on le voit avec son enfant à la maison. Moi, je vois ma fille, il y a des choses avec lesquelles elle ne joue absolument pas. Donc, je lui enlève au fur et à mesure parce qu'elle ne joue absolument pas. Donc, c'est que ça la nourrit pas. Et petite anecdote, je parle de ma fille, mais ça m'a fait rire quand j'ai lu votre livre parce que je me suis retrouvée un petit peu là-dedans. Elle fait des puzzles pour situer la chose. Elle fait des puzzles depuis qu'elle est toute petite. Elle adore ça. Et elle est entrée à l'école cette année en première année. Donc, elle a 2 ans et demi. Et c'est la plus jeune de l'école. Et un jour, elle me dit, quand je l'accompagne, elle me dit « Maman, tu peux m'accompagner dans la classe ?» Donc, je l'amène avec moi, je l'amène. Et puis, elle sort un puzzle du placard. Et puis, tout de suite, l'aide de maternelle, qui est très gentille, qui est toujours très à l'écoute et tout, elle dit « Non, mais tu sais, ma chérie, tu peux pas faire ça. Même les grands n'y arrivent pas. » Et là, ma fille me regarde avec les yeux. J'ai vu son désarroi, en fait, je l'ai senti. C'était horrible pour moi. Je suis partie, je pleurais presque. Elle me dit « Pourtant, je sais le faire à la maison. » Et c'est ça qui manque en France. J'ai envie de dire, on nourrit pas assez les enfants.
Pour moi, un des principaux malentendus et une des principales causes de l'échec des enfants est là. C'est l'écart entre ce dont ils ont besoin et ce qu'on croit. Ce dont on les pense capables. Et donc cet écart énorme fait que on ne rencontre pas les enfants. On ne se rend pas compte de qui nous avons en face de nous. Vraiment, nous sommes tout le temps en train de les sous-estimer. C'est ce que je disais aux enseignants en Belgique. Je leur disais, dites-vous toujours que même lorsque vous pensez les surestimer, c'est-à-dire penser que ce que vous leur proposez est au-dessus de leurs capacités, dites-vous toujours que vous êtes en dessous. Toujours, même moi à la première, hein. À chaque fois que je vais dans une classe, j'ai conscience de ça, ce que je propose, je pars du principe que c'est a priori en dessous, mais j'essaie quand même. Et puis il faut, ce n'est que par tâtonnement et par expérience qu'on se rend compte. Et le meilleur indicateur, il est très simple. C'est très simple en fait. Révolutionner l'éducation, c'est très simple. Ça demande du bon sens, mais ça demande de l'audace, le bon sens.
Oui, ça demande de l'audace.
Le meilleur indicateur.
Oui, pardon.
Le meilleur indicateur, excusez-moi, ça va être, vous savez, ce regard pétillant de l'enfant, cette joie, ce sourire qui revient, ce visage qui s'illumine. C'est ça que l'on doit chercher. Ça doit être l'objectif et le moyen. Tout est là.
Je rebondis sur ce que vous disiez, hein, lorsqu'on dit aux enfants par croyance qu'il va pas être capable, ou même par manque de temps des fois, hein, quand un enfant met ses chaussures, qu'on va sortir, qu'on est pressé, ben on lui met parce qu'on n'a pas envie de les laisser faire. Est-ce qu'on l'empêche comme ça de construire quelque part cette intelligence exécutive dont vous parlez dans votre livre?
Absolument. Si l'enfant ne peut pas s'engager dans cet effort cognitif soutenu, dans ce challenge en fait pratique cognitif. Eh bien, l'intelligence ne s'exerce pas tout simplement, à un moment où elle devrait s'exercer pour s'épanouir, quoi. C'est comme un muscle, finalement, vous voyez. S'il ne s'exerce pas à un moment où il doit se développer, il s'atrophie. Eh bien, c'est pareil pour l'intelligence. Et il se trouve que dans les premières années de vie, l'enfant construit le langage, mais il construit aussi ses capacités sensorielles, etc., mais aussi ses capacités d'action, d'apprentissage. Ça, on le sait moins. Quand l'enfant dit « moi tout seul », quand
très tôt d'ailleurs.
Des choses seules. Comment ?
Très tôt, l'enfant dit ça, hein, moi tout seul.
Il le formule à 2 ans, mais il le dit déjà par des gestes avant. Quand il repousse nos mains qui essaient de l'aider à faire des petites choses, emboîter des encastrements par exemple, quand il repousse nos mains, déjà, il est en train de dire moi tout seul, c'est moi qui dois essayer de faire ça, qui dois me tromper, qui dois détecter mon erreur, recommencer. Et là, il construit ce qu'on appelle des compétences exécutives, donc sa capacité à se contrôler, à persévérer, à détecter son erreur, à prendre du recul avant d'agir, à analyser les situations. Tout ça, ce sont les fondations biologiques de l'apprentissage. Un enfant qui n'a pas pu développer ça parce qu'on a entravé son action spontanée, ou parce qu'on a fait à sa place, eh bien, ou parce qu'on l'a collé devant les écrans depuis tout petit, c'est des écrans court-circuitent complètement le développement exécutif, eh bien, les enfants arrivent à 3 ans en maternelle et ils ne sont pas capables, bien plus que ce que, comment dire, que la normale, ils sont incapables de se contrôler, de rester concentrés, de rester attentifs, de persévérer. Tous les découragent, ils n'ont même plus d'enthousiasme, ils sont complètement dans un désordre cognitif, parfois même physique, de la pensée, tout est en désordre. Et là, en fait, et c'était l'objet de ce deuxième livre, même si j'en parlais dans le premier, là je reviens là-dessus parce que c'est vraiment ce qu'on a travaillé en Belgique, c'est de dire, avant d'enseigner, avant de faire de la pédagogie, il faut réparer ce qui n'a pas été construit dans les premières années. Et c'était d'ailleurs le travail et le message de Maria Montessori originel, de dire il y a des fonctions essentielles de l'intelligence qui n'ont pas été créées et construites, précisées à un moment où elles auraient dû se créer. Et quand les enfants entrent en maternelle, il faut absolument profiter des derniers temps de la fenêtre plastique cérébrale où le cerveau est encore très plastique et il construit encore ces fonctions-là. Il faut profiter de cette fenêtre d'opportunité-là pour permettre aux enfants de développer ce qui peut encore se développer. Il construit les fondations de l'apprentissage. Donc là, il faut travailler la persévérance, les capacités attentionnelles, la confiance en soi. C'est maintenant. Et après, on fera de la pédagogie. Après, on accompagnera l'enfant à aller plus loin dans les apprentissages scolaires, etc. Mais avant les fondamentaux, quelque part, avant les fondamentaux scolaires, il y a ces fondamentaux-là. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, parce que sinon, on demande aux enfants de faire des choses dont ils n'ont pas... On leur demande d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à faire des mathématiques, mais ils n'ont pas les ressources cognitives pour le faire. Ils n'ont pas pu les développer à cause de nous, cause de notre société qui n'a pas conscience de l'importance d'accompagner l'autonomie et l'émancipation de l'enfant dès les premiers temps de vie.
Il faut vraiment qu'ils arrivent à l'école avec ces bases solides, hein, de fonctions exécutives. Alors, c'est peut-être plus simple dans les milieux, je dirais, où les parents suivent les enfants, un petit peu moins dans les milieux défavorisés, Céline Alvarez.
Oui, c'est plutôt des milieux favorisés culturellement ou sensibles.
Culturellement, bien sûr.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a 2 choses. Il y a les familles qui sont sensibles à ces choses-là, qui accompagnent les enfants, déjà permettent aux enfants donc d'exercer ces fonctions-là. Mais en plus, en général, dans ces familles-là, les parents sont sensibles au fait que les écrans, c'est plutôt délétère et toxique, voire pour le cerveau du jeune enfant en plein développement. Donc non seulement ils leur permettent d'être actifs, mais en plus ils évitent à l'enfant d'être face à des perturbateurs attentionnels majeurs. Donc l'enfant peut vraiment se développer correctement. Dans d'autres milieux où on est moins sensible à cela, moins informé peut-être aussi, eh bien non seulement on accompagne moins l'enfant à faire seul parce qu'on a moins conscience de l'importance de cette chose-là, mais on peut par facilité ou par inconscience en fait, ou par ignorance, on peut laisser les enfants face à des écrans. Et là c'est catastrophique. C'est catastrophique.
Bon, on le voit, hein, on le voit au quotidien. 04 95 32 22 21, si vous voulez réagir ou poser votre question à Céline Alvarez, ou vous continuez bien sûr à nous envoyer vos questions sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Il y a beaucoup de choses à dire, donc j'avance un petit peu et ensuite on prendra vos questions. Céline Alvarez, vous disiez que les premières années de vie étaient un temps de création critique et fondateur, mais on apprend dans votre livre aussi que l'adolescence aussi représente une seconde fenêtre, j'ai envie de dire d'opportunité, propice vraiment à une nette augmentation de ses capacités.
Oui, tout à fait. Alors bien sûr, on ne va pas créer des fondations à l'adolescence. Les fondations auront été créées préalablement dans les premières années de vie. Mais effectivement, il y a une deuxième fenêtre de sensibilité où les connexions neuronales foisonnent de nouveau dans ces régions cérébrales. Et donc on peut préciser et peut-être venir un peu réparer de manière plus rapide et plus efficace dans cette période adolescence, préadolescence. Et ça, il faut le savoir.
Oui, c'est important pour nos auditeurs qui nous écoutent. Les environnements favorables au bon développement exécutif sont ceux dans lesquels l'adulte accompagne précocement l'enfant, vous le disiez précédemment, et progressivement l'enfant va vers une autonomie de plus en plus maîtrisée, cette autonomie qui est vraiment la clé des centres de recherche du développement de l'enfant et celle que vous prenez comme base dans votre démarche, Céline Alvarez. L'autonomie, c'est important.
Alors, ce que je tiens à dire, parce que je pense que si on comprend ça, on fera tous un grand pas. C'est pas, ce n'est pas ma démarche. C'est vraiment, je partage ce que la recherche martèle depuis des années. Alors pas particulièrement en France, mais plutôt dans les centres de recherche internationaux comme le Centre de développement de l'enfant de Harvard, qui a mis le développement des fonctions exécutives tout en haut du sommet de la pyramide des priorités, et qui dit bien, je les cite, à venir à l'école avec des fonctions exécutives correctement développées est plus important que de connaître les lettres ou les chiffres. De rentrer à l'école primaire, je dis.
Donc, oui, bien sûr.
C'est plus important d'avoir des fonctions exécutives développées que de connaître les lettres ou les chiffres. Donc, ce n'est pas ma démarche, si vous voulez, c'est une tendance biologique humaine universelle qui demande à être appliquée enfin. C'est
oui.
Et lorsqu'on le fera, tout le monde ira beaucoup mieux. Et pas seulement les enfants, les adultes qui l'accompagnent, qui arrêteront de s'épuiser dans des relations tendues, parce qu'on demande aux enfants de réaliser des tâches alors qu'ils n'ont pas les ressources cognitives pour les réaliser.
Tout simplement. On a une auditrice. On va commencer à prendre des auditeurs. Céline, qui a une question pour vous, Nathalie. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis enseignante. Bonjour Céline. Je suis enseignante. J'ai lu vos livres, évidemment. Le dernier en date que j'ai sur ma table de nuit.
Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors moi, j'ai été... c'est plus un témoignage et puis une question pour finir.
D'accord.
Moi, j'ai été un peu, chamboulée dans ma façon de travailler, d'abord par vos livres, mais aussi par rapport à mon vécu. Puisqu'à un moment donné, je me suis retrouvée en difficulté face à mes élèves. Et donc, évidemment, il faut changer, il faut se remettre en question. Et c'est pas toujours facile. Donc, vos livres m'ont beaucoup aidée pour ça. Et j'ai changé pas mal de choses. Et j'en suis encore loin. Je suis encore loin d'y
arriver. Paris ne s'est pas fait en un jour,
exactement.
Nathalie.
Exactement. Mais j'aimerais plus. Et donc, ma question, c'est à quand allez-vous venir nous voir encore une concertation pour nous aider dans les écoles? Parce que moi, je veux bien venir travailler en Belgique. Y a pas de...
Voilà, l'invitation est lancée, Céline Alvarez.
Je la note et on verra. Je la note. Merci.
C'est bien, merci. Témoignage. Bonne journée.
Bonne journée, Nathalie. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Justement, qu'est-ce que vous répondez? Bon, moi, je le sais, puisque j'ai lu attentivement vos deux livres, mais on voit dans ces livres que même ces personnes qui ont fait la demande à la ministre belge de vous dépêcher sur place pour les aider, il y a des moments où on se décourage, il y a des moments où c'est pas facile, parce qu'on a vraiment le moment de grâce, comme vous l'appelez, et puis la semaine d'après, boum, on se prend tout dans la figure.
Oui. Eh bien... qu'est-ce que je dis aux enseignants qui sont dans cette période qui est longue, qui dure plusieurs mois, qu'on appelait en Belgique la traversée du désert, c'était vraiment aride, c'était dur. Je leur dis, c'est formidable, vous êtes face au problème. Surtout, ne vous découragez pas. Tout le monde passe par là. Et ceux qui disent, quand ils changent de démarche, que tout s'est bien passé, qu'il n'y a eu aucun problème, aucune aspérité, que les enfants sont tout de suite rentrés dans le système basé sur l'autonomie, je ne les crois pas. Ou alors, je m'inquiète sérieusement. C'est-à-dire que nous sommes face à des enfants qui ne sont pas autonomes. La plupart des enfants. C'est très rare maintenant d'avoir dans ma classe des enfants qui ont une autonomie suffisamment développée et qui savent juste choisir les activités qui leur correspondent et aller au bout. Juste, ils ne savent même plus ce qu'ils aiment, ces enfants, les enfants. Donc, quand on retire en fait tout le système traditionnel qui contient en fait l'enfant, qui lui dit ce qu'il doit faire, à quelle heure, combien de temps, et puis après la récréation, etc. Quand on retire toute cette contention, eh bien, on voit l'état des choses. Et on voit des enfants qui sont incapables de choisir ce qu'ils aiment. Ou alors, quand ils arrivent à le faire, ils sont incapables d'aller au bout. La moindre difficulté les décourage. Une pièce de puzzle tombe par terre et c'est terminé. Ils veulent abandonner. Ils sont incapables d'avoir des relations sociales apaisées. Le moindre conflit, le moindre désaccord, ils se sautent au cou, ils pleurent, ils se tapent, ils se poussent quand ils sont tout petits. Et même plus tard, hein, même en CP, dans la classe de Marie-Henri à Bruxelles, dont je relate l'expérience dans le livre, on voit en CP, c'est catastrophique. Les enfants n'arrivent même pas à marcher, certains n'arrivent même pas à marcher droit, à éviter les chaises, lorsqu'ils ne savent pas à prendre des initiatives, ils ne savent pas à quel moment ils peuvent aller aux toilettes, ils ne savent pas refermer une porte délicatement, ils ne savent pas se moucher. Oui, c'est tout ça qui n'est pas là. Et donc, quand on retire cette contention, ce que l'on observe, c'est triste. C'est très dur. Et il faut savoir que pour rétablir cet axe intérieur chez l'enfant, pour le faire revenir à lui-même, c'est long. C'est long, mais il faut passer par cette étape-là. La squeezer ne serait que mettre, vous savez, la poussière sous le tapis. Mais elle est toujours là. Enfin affronter le problème de face, et lorsque cela est fait, et c'est beaucoup mieux lorsqu'on le fait en équipe, lorsqu'il y a toute l'équipe éducative et les parents inclus dans cette démarche-là, alors les choses vont beaucoup plus vite, mais il n'y a pas d'autre choix. Si on veut résoudre le problème de l'éducation, il faut passer par là.
Il faut passer par là à l'école, mais aussi à la maison. C'est une avérée, il faut faire évoluer ces mentalités. Ces mentalités, c'est vrai que, comme vous le disiez précédemment, c'est facile de mettre son enfant devant la télé, devant un écran. On a la paix, mais c'est pas comme ça qu'on va l'aider à se construire.
Non, c'est exactement comme ça qu'on lui permet de se déconstruire complètement. Vous savez, les enfants, il suffit de... Là, on le voit très bien dans les classes que j'ai pu accompagner, dans les milieux, effectivement, qui ne sont pas sensibilisés à ces choses-là. Après 2 mois de vacances, les enfants sont à nouveau, il faut recommencer, très déstructurés, beaucoup plus impulsifs, avec des crises de colère beaucoup plus prégnantes, présentes. Et puis, il y a une espèce de déstructuration, des difficultés attentionnelles qui reviennent, moins d'envie de travailler, des débuts d'état dépressif à 7-8 ans.
Oui.
Vous savez, hein, la recherche l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion. Au-delà de une demi-heure par jour d'écran, les enfants, une demi-heure par jour, à tout âge, les enfants montrent déjà des grandes difficultés attentionnelles, des difficultés à persévérer, à détecter leurs erreurs. Ils ont déjà des tendances à être beaucoup plus impulsives et des états qui vont vers des états dépressifs.
Tout à fait.
Et sur le terrain, on pourra toujours critiquer, dire qu'il n'y a pas assez d'études, je ne sais pas quoi. Je pense que des études.
Il y en a des études. On a fait une émission là-dessus la semaine dernière. Il faut aller lire les bonnes études, justement.
Et puis, il faut aller voir dans les classes. Je veux dire, ce que les enseignants, parce que nous, on est un petit peu isolés, on ne se rend pas compte. Mais aller voir dans une classe avec 25-30 enfants, c'est catastrophique. C'est à pleurer. Les enfants, de plus en plus, avec des troubles attentionnels, des troubles comportementaux, et les enseignants, avec les mêmes moyens, sans information, doivent gérer ça. Mais c'est inhumain. Il faut voir ce qu'on est en train de faire à nos enfants et à nos enseignants, du coup.
Oui, et aux parents. 04 95 32 22 22, hein, si vous souhaitez réagir, poser vos questions à Céline Alvarez.
ensemble, on va gagner. On s'aime si fort ensemble, on peut flotter. Mais tu trembles, il me semble, je vais nager.
Dans vos magasins Leroy Merlin de Furiani et d'Ajaccio, plus de 300 collaborateurs vous accompagnent dans vos projets. Suivez leurs conseils, vous êtes sûr de faire le bon choix. Pour profiter de nos garanties, confiez-nous la pose de vos fenêtres ou portails, l'installation de votre cuisine ou salle de bain. En participant aux ateliers du bricolage le samedi, venez apprendre chez nous pour réussir chez vous. Leroy Merlin et vos projets vont plus loin.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 20 ans pour le droit à la santé et à l'éducation des enfants de pays défavorisés. Si notre pari sur l'avenir devient une réalité, il reste encore beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir, vous pouvez choisir de faire un leg ou une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Pour demander notre documentation, appelez Annick, responsable leg, au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.
C'est parti pour le script Direct Assurance. Alors, la publicité Direct Assurance montre un conseiller qui prend un appel pendant qu'il se fait attaquer par un monstre. Non, il se fait emporter par une tornade. Pas terrible. Bon, eh bien, la publicité Direct Assurance ne montre rien du tout, puisque tout ce que nous avons à dire, c'est que nos conseillers font toujours tout leur possible pour vous aider, et c'est pour ça que Direct Assurance est élu service client de l'année 2020. Rendez-vous sur directassurance.fr, le slogan « On gagne toujours à être direct » et le jingle. Ta-ta-ta-da-da. Catégorie assurance de biens, études BVA Group, visio OCI, mai à juillet 2019. Plus d'infos sur escda.fr.
Un petit déjeuner musical ce mardi sur RCFM, à l'occasion de la sortie de son nouvel album Vers Univers, où Patricia Paul y sera notre invitée entre 7h et 8h10. Au-delà de cet événement culturel, elle commentera avec nous ce qui fait la une de l'actualité. Et petit déjeuner avec Patricia Paul, c'est ce mardi sur RCFM.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Pour aujourd'hui, des nuages dominent toute la journée. Ils peuvent donner quelques petites pluies dans le Cap Corse ainsi que sur la plaine orientale en début de matinée. Le cumul de pluie peut atteindre 10 mm. Sirocco assez fort dans le Cap Corse. Rafale atteignant 65 km/h l'après-midi. À l'est, à nord-est, assez fort sur l'extrême sud. Température maximale sur tout le département sauf la Balagne de 21 à 24 degrés et 25 degrés en Balagne. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Caroline Salione, bonjour.
Bonjour, des tags ont été retrouvés sur les locaux de la trésorerie du Cap Corse à Villers-di-Pietrabougne. FLNC 76, boum, peut-on lire sur les rideaux métalliques. Pour la CGT, alors que personnel des finances publiques, usagers et élus se mobilisent pour sauvegarder nos trésoreries menacées de fermeture par le gouvernement, certains par leurs axes se font les complices de cette politique. Le syndicat indique que si le FLNC remettait ses menaces destructrices en œuvre, ce serait la fin de notre service public en Corse et un service rendu à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Et décidément, cette alliance entre pouvoir libéral et groupes clandestins violents apparaît une nouvelle fois au grand jour, conclut la CGT des finances publiques. Les zones de revitalisation rurale, les ZRR, sont aujourd'hui menacées. Une annonce faite il y a peu au Sénat par 3 parlementaires lors de la présentation de leur rapport sur ces zones au nom de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Créée en 1995, ce dispositif ouvre droit à des exonérations de fiscalité et à des allègements de cotisations patronales pour les entreprises qui s'installent en milieu rural. Mais au 1er juillet 2020, plus de 4000 communes sortiront de ce zonage et parmi elles, une trentaine pour la Corse. Hormis les agglomérations ajacciennes et bastiaises, il faut savoir que toute l'île est en zone de revitalisation rurale. Mais les retombées du dispositif semblent peu importantes. D'ailleurs, de nombreux maires militent pour un dispositif différent, style zone franche de montagne. Et puis les buralistes corses étaient réunis ce week-end en Assemblée Générale à Borgo face à la baisse des ventes de tabac, à la la perte programmée de leur avantage fiscal, les débitants de tabac de Lille sont contraints de miser sur la diversification. Un dispositif test sera notamment mis en place dans Lille en février pour la perception de certains impôts directement chez les buralistes. En politique, Stéphanie Grimaldi quitte les Républicains. C'est ce qu'elle confie ce matin à nos confrères de Corse Matin. Elle a décidé de ne plus renouveler son adhésion au parti. Elle indique que c'est en femme libre qu'elle se présente au municipal à Bastia, à la tête d'une liste sans étiquette, avec une volonté, dit-elle, d'ouverture au-delà de sa sensibilité politique. Et puis des municipales à Bastia, on en reparle également ce midi dans Vintiminoud, l'émission politique d'RCFM, puisque Jean Tsoukarelli, conseiller municipal et communautaire d'opposition à Bastia, en sera l'invité. Rendez-vous à partir de 12h10.
Merci Caroline Salion. Prochain point sur l'actualité avec vous à 11h.
Les autres? Les autres ne sont jamais Happy. Mais vous n'êtes pas les autres. Et Cuisine Plus non plus. Jusqu'au 23 novembre, Happy Electrio est prolongé. Jusqu'à 6 électros de grande marque pour 1 euro de plus. Cuisine Plus, sortez les standards.
Dans votre magasin Cuisine Plus, au rond-point de Fouriagne, à côté de Xoun.
À partir de 4 500 € d'achat de meubles selon barème progressif. Conditions en magasin et sur cuisine-plus.fr. Happy signifie heureux.
Bonjour Pierre Orsini, vous êtes gérant des magasins Aristil et le créateur du site masalledebain.com. Comment expliquez-vous un tel succès national?
Bonjour, nos avantages? Une large gamme, du stock, des prix, le sur-mesure dans l'ensemble des familles de la salle de bain et le service de conception 3D gratuit en ligne et en magasin.
Vous êtes le leader du sur-mesure?
Oui, grâce à nos outils, vous pouvez en quelques clics avoir le prix, le délai et le rendu 3D de votre réalisation. Sur masalledebain.com, le designer, c'est vous.
Merci. Rendez-vous en ligne ou dans les showrooms Aristil, à Bastia et Ajaccio.
Waouh, Michel, quelle classe! T'as un rendez-vous galant? Ah, mieux que ça, je reçois mon opticien.
Optique 2000 innove avec son nouveau service, Optique 2000 à domicile. Désormais, si vous avez des difficultés à vous déplacer, choisissez vos lunettes chez vous avec un opticien Optique 2000. Pour découvrir le service Optique 2000 à domicile, appelez le 0809 54 2000. Et comme toujours, votre opticien s'occupera de tous les papiers.
Optique 2000!
Une nouvelle vision de la vie.
Conditions et liste des magasins au 0809 54 2000 ou sur optique2000.com. Service gratuit plus prix de l'appel. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama.
Ça y est Bertrand, vous êtes votre propre patron?
Eh oui Cerise, c'est fait. Pas de salarié, pas de local, c'est sans risque.
Et si vous avez un litige avec un client?
Eh ben je...
Des 10 euros par mois, avec l'assurance Groupama pour les micro-entrepreneurs, vous êtes couvert si vous êtes mis en cause et bénéficiez de l'aide de nos juristes.
Ah mais c'est bien ça!
Vous permettre de travailler en indépendance sans jamais vous sentir seul, c'est ça être assureur mutualiste.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Info sur groupamapro.fr pour les conditions et limites des garanties se reporter au contrat.
France Bleu, RCFM. RCFM, Christine Alloudi, les experts.
Oui, bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans les experts. Je suis aujourd'hui en compagnie de la star de la pédagogie alternative, l'icône des classes. Céline Alvarez est avec nous ce matin dans les experts.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
04 95 32 22 22 pour réagir, pour témoigner ou pour poser toutes vos questions à Céline Alvarez, ou vous continuez bien sûr à m'envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Je lui ferai passer vos petits messages de bonjour, c'est promis. On va accueillir une auditrice qui a une question pour vous Céline. Samira, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Paris, Samira?
Oui, c'est ça, oui.
Vous nous écoutez depuis Paris, mais on a de la chance.
Bonjour, bonjour Céline.
Votre bonjour. Fille a des difficultés scolaires.
Oui, c'est ça. En fait, justement, je voudrais vous poser cette question. Justement, en fait, on parle peu pour les enfants qui sont grands prématurés. Et en fait, la mienne, elle est née extrême prématurée de 24 semaines de grossesse. Et donc, ce qui fait, en fait, voilà, c'était un enfant qu'elle avait vraiment des difficultés de santé et tout, etc. Donc, elle avait des problèmes et tout. Donc, voilà, elle rentre normale à la maternelle. Et là, en fait, voilà, la maternelle, elle était, voilà, on a passé des périodes, en fait, très, très, très difficiles. C'est que, en fait, elle s'est pas bien suivie, nous aussi. Donc, voilà, j'avais du mal. Et pour moi, j'entends que échec, 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 votre fille, elle a un handicap, elle a un handicap, elle a un handicap. Et en fait, voilà, et quand par hasard, en fait, je suis tombée sur les articles de Céline et tout, j'ai commencé, en fait, à lire, à regarder, en fait, ces petits vidéos sur YouTube et tout, etc. C'est là, en fait, que je me suis rendu compte ce qu'on a fait avec ma fille, en fait, c'était catastrophe. Et là, elle est en CE2. J'ai pas lâché l'affaire, je suis derrière ma fille et justement je voudrais savoir qu'elle me donne en fait des conseils pour ça, pour qu'elle arrive justement à continuer à évoluer en fait, voilà.
Alors, bravo déjà pour tout ce que vous faites pour votre fille, vous la suivez, c'est super important. Céline Alvarez, une réaction sur le témoignage de Samira.
Merci.
J'entends tout à l'heure. Déjà, c'est difficile de. Je ne peux pas me prononcer ou aider ou donner des conseils lorsqu'il faut connaître l'enfant, il faut le voir évoluer. Et puis, c'est toujours de manière individualisée, justement. Il n'y a pas de méthode, il y a effectivement une tendance. Donner à l'enfant des activités qui le nourrissent, qui lui procurent de la joie, qui le stimulent, etc. Ça, c'est une tendance pour tous les enfants. Mais d'un enfant à l'autre, et le contenu et la façon de le proposer varient. Donc, c'est difficile de répondre, de donner plus de conseils, si ce n'est que continuer à accompagner l'enfant. Mais ce que je voudrais profiter de ce témoignage et de cette question pour mettre un peu de lumière sur la difficulté des enseignants. C'est extrêmement important de le dire. C'est que dans les classes actuelles, comme je le disais, il y a de plus en plus de difficultés pour les enfants de tout type, et il n'y a pas plus de solutions qui sont proposées aux enseignants pour accompagner ces enfants-là. Ça demande une individualité. À chaque fois qu'il y a un enfant avec des troubles particuliers, il y a vraiment besoin d'individualiser l'apprentissage de manière absolue.
C'est vraiment, comme les enfants à haut potentiel, hein.
Tout à fait.
Il n'y a rien qui est fait pour ces enfants-là. On va en parler cette semaine avec Olivier Revol, mais
la plupart des enseignants souhaiteraient pouvoir accompagner ces enfants-là d'une manière qui serait plus adaptée. Mais il faudrait déjà plus de... Pour le coup, il faut vraiment plus de moyens. C'est-à-dire que dans les classes maternelles en France, toutes les classes maternelles n'ont pas, déjà la base, c'est-à-dire n'ont pas une assistante maternelle par classe.
C'est dommage, parce que qu'est-ce que ça marche bien.
Mais c'est une violence institutionnelle.
Tout à fait.
Quand un enseignant est tout seul dans une classe avec 25 à 30 enfants de moins de 6 ans, alors que même ils ont de plus en plus de troubles particuliers, et comme dans le cas de votre fille, où il y a un accompagnement spécifique qui doit peut-être être proposé, je veux dire, ils sont eux-mêmes placés dans des conditions...
Pour moi, la chance, il y a une ATSEM qui est très bienveillante, et elle a de la chance d'être dans une classe où ils sont 15, mais il y a vraiment une ATSEM, et il y a vraiment, vraiment besoin de ces personnes-là, parce qu'on, je pense,
mais ça, vous voyez, c'est la base.
On valorise pas assez leur métier, je pense.
Mais la première chose à faire, le conseil que je donnerais à cette dame, à cette maman qui nous appelle, c'est déjà de s'assurer que dans la classe de sa fille, il y ait des conditions de travail qui soient juste normales pour l'enseignante, qui soient satisfaisantes et favorables. Donc s'il n'y a pas d'ATSEM dans la classe de l'enseignante de vos enfants, allez protester à la mairie. Ne lâchez pas l'affaire dans ce sens-là non plus.
Samira, il y a une ATSEM dans la classe de votre fille? Non, elle est en CE2 maintenant.
Oui, en fait, elle est en CE2. On a fait en fait une demande d'un AVS fin. Elle était acceptée fin de CP. Ils ont trouvé quelqu'un pour fin CE1.
Vous vous rendez compte la difficulté dans laquelle s'est retrouvée votre fille, mais la difficulté dans laquelle s'est retrouvée l'enseignant et les enseignants.
Et en fait, le problème, c'était, comme vous avez dit, en fait, c'est les enseignants. En fait, c'est les enseignants qui n'étaient pas bien, en fait, voilà.
Mais les enseignants ne sont pas formés pour quelque part, pour traiter des cas particuliers, hein, Céline Alvarez.
Ça, je pense que ils le sont de plus en plus, quand même. Je crois que la formation va dans ce sens-là. Mais au-delà de ça, il faut juste, comment dire, des moyens humains, des ressources humaines pour les accompagner, pour être présents aux côtés des enseignants et des enfants. Pour c'est quand même une aberration qu'on en soit encore à parler de. Enfin, il faudrait que dans toutes les classes, là, je parle juste de la maternelle, en tout cas, dans toutes les classes maternelles, il y ait un assistant formé à temps complet, hein, pas 2 heures dans cette classe et puis 2 heures dans une autre. C'est toute la journée à temps complet et formé dans une classe maternelle. C'est la base, parce que c'est là où se construisent les fondations de l'intelligence humaine, et dans les crèches aussi d'ailleurs, qui ont un énorme rôle à jouer. Il faut qu'il y ait maintenant suffisamment d'accompagnants pour aider les enfants. Et ensuite, effectivement, quand il y a en plus des troubles spécifiques qui se poursuivent au-delà de la maternelle, l'AVS, on ne devrait pas l'attendre 2 ans.
C'est oui,
ou une année, ou même 6 mois.
Oui, c'est ça en fait. En fait, ma fille maintenant, moi je trouve en fait, elle a un petit retard par retard en fait. C'est seulement comme, c'est pas un retard, mais elle a pas de problème psychomotricien ou non. En fait, voilà, on a commencé avec un orthophoniste. Là, maintenant, avec l'AVS, ça n'a rien à voir. Là, ces dernières évaluations, en fait, moi, je trouve qu'elle a bien travaillé. Elle est bien. Voilà.
Mais c'est super.
Je lâche pas la main.
Est-ce que j'aimerais juste répondre, et vraiment je tiens merci pour votre témoignage, parce que il faut qu'on prenne conscience que, bien sûr, on aurait tendance à vouloir tous se pointer du doigt, la faute est par-ci, la faute est par-là, et c'est normal, je pense que c'est naturel qu'on fasse cela,
oui.
Mais si on veut s'en sortir, il faut qu'on prenne conscience que la difficulté, elle est collective, et qu'il faut qu'on s'entraide. Bien sûr que votre fille est en difficulté, et qu'en tant que parent, on a tout de suite envie de mettre une bulle de protection autour et de défendre. Mais oui. Comprenons bien la difficulté dans laquelle sont les autres accompagnants qui essaient d'aider votre enfant. Et oui. Ça, il faut maintenant qu'on ait cette conscience et cette bienveillance collective. Et quand nos enfants sont en difficulté à l'école, réfléchissons. Est-ce que les adultes qui les accompagnent à l'école sont dans des conditions favorables et soutenantes? Si ce n'est pas le cas, alors il faut se battre pour eux d'abord. Sinon, nos enfants ne pourront pas être dans de bonnes conditions.
Oui, c'est ça. Donc voilà,
merci
je lâche pas l'affaire, ma fille, elle est heureuse comme tout. Hier, on a acheté en fait les lettres, justement, je vous ai demandé votre conseil sur Instagram, vous m'avez dit oui, et justement, vous étiez étonnée, vous m'avez dit, mais elle a 8 ans, vous l'avez acheté en fait les lettres magnétiques.
Les lettres magnétiques.
Voilà, donc c'est ça, on l'a acheté hier. Elle était tellement contente. Et ce qui m'a étonnée le plus, c'est qu'elle a fait ses exercices et tout correct. Elle a bien écrit. Donc, on était tellement heureux.
Mais bravo.
Tous les deux et voilà.
Comment s'appelle votre fille?
C'est le plus important.
Comment s'appelle votre fille?
Elle s'appelle Rabad.
Rabad, on lui fait un gros bisou.
Ça signifie un nuage blanc.
Un nuage blanc. On fait un peu. On lui fait un gros bisou et on lui souhaite plein de bonnes choses.
Merci beaucoup. Elle vous écoute. Elle aussi, elle sourit. Merci beaucoup.
Allez, gros bisous. À bientôt,
bon
Samira.
Bonne continuation. Vous aussi, je vous lâche pas, Céline. Je vous suis partout.
Céline a ses fans.
Vous m'avez vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Franchement.
C'est super. Merci beaucoup.
La demande pour le livre, je le reçois cette semaine.
Ah, mais vous allez vous régaler.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Merci, je vous remercie infiniment. Bon continuation.
Merci Samira, au revoir.
Au revoir.
Eh bien voilà, encore un témoignage pour vous Céline Alvarez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vous suit hein, sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet. Beaucoup de parents convaincus. Je rebondis sur des choses que vous disiez là en réponse à Samira. Les accompagnants, oui, mais aussi optimiser l'espace. On a aujourd'hui des classes qui ont été construites il y a 30 ans. Moi, je prends l'exemple de mon école que j'avais il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle est encore en vigueur. Et c'est vrai que les salles de classe, elles sont peut-être pas aujourd'hui adaptées à recevoir autant d'élèves. Les élèves manquent d'espace, c'est ce que vous dites.
Mais oui, tout à fait. La norme, c'est environ 60 mètres carrés par classe. Vous vous rendez compte, 30 enfants ou 25 enfants, même 25 enfants de moins de 6 ans dans 60 mètres carrés toute la journée, c'est comment dire, comment dire
c'est
ça,
c'est de la maltraitance.
Les enfants, évidemment, sont nerveux, agités, enfin, c'est tout à fait normal. Il faut ouvrir les espaces. Alors, bien sûr, on ne peut pas encore, quoique certains enseignants le font, casser les murs, mais on peut, c'est ce qu'on a fait en Belgique, on peut essayer de s'arranger en fusionnant des classes, c'est-à-dire quand, vous savez, il y a deux classes qui sont séparées par un mur avec une petite porte, eh bien, on ouvre la porte, et puis les enfants peuvent circuler, du coup, dans deux salles, et même si donc nous avons une cinquantaine d'enfants dans deux espaces, et bien le fait qu'ils puissent circuler, et bien ça les apaise énormément.
Et puis ça fait qu'il y a deux adultes, quand il n'y a pas malheureusement d'ADSEM, il y a deux adultes qui peuvent s'entraider quelque part avec tous ces élèves.
Oui, parce qu'en Belgique, là où nous avons travaillé, il n'y a pas d'ADSEM, ça n'existe pas.
Ouais,
ce poste-là n'existe pas, les enseignants sont seuls dans leur classe. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est que dans certaines écoles où les directions pouvaient se le permettre, ils ont débloqué du budget pour qu'il y ait un adulte supplémentaire, donc on va dire une ADSEM, appelons ça comme ça, une assistante maternelle, par classe fusionnée. C'est-à-dire que chaque classe où deux enseignants fusionnaient leur salle, eh bien, il y avait un adulte supplémentaire. Ce qui revient, en fait, à une demi-ADSEM par classe. Et donc, ce n'est pas une ADSEM ou un ADSEM à temps complet par classe, mais en tout cas, là, en fusionnant, ça réduit beaucoup les coûts, mais en même temps, ça soulageait énormément les enseignants et les enfants.
Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, on ne valorise pas assez leur travail, mais je pense qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment importantes.
Elles sont indispensables.
Et indispensables pour nos enfants. 04 95 32 22 22 pour réagir, témoigner ou poser toutes vos questions à Céline Alvarez. Jane sur RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Je vous rappelle que nous sommes en direct 04 95 32 22 22 ou nos réseaux sociaux France Bleu RCFM pour poser toutes vos questions à notre experte du jour, Céline Alvarez, qui a, je vous le rappelle, sorti un livre aux éditions Les Arènes, Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler, c'est ce qu'on veut tous. Céline, je voudrais juste qu'on revienne sur le matériel, je rebondis sur ce que disait Samira. Dans votre expérience en 2011 à Gennevilliers, vous avez utilisé du matériel Montessori, donc on aurait pu attribuer la réussite de cette expérience à ce matériel-là. En Belgique, pas du tout. Vous n'avez pas utilisé de matériel Montessori et pourtant ça a marché.
Oui, il n'y avait pas de. Alors, non seulement il n'y avait pas d'ATSEM dans les classes, ça n'existe pas, mais en plus il y a vraiment peu de moyens dans la plupart des classes pédagogiques, donc il y a très peu de choses, ou beaucoup de choses, mais qui ne sont pas utiles aux enfants finalement, c'est assez superficiel. Et donc, oui, non, la réussite ne tient pas du tout au matériel et ne tiendra jamais au matériel qui est utilisé, même si cela est important pour soutenir ensuite, mais dans le premier temps, il s'agit vraiment d'avoir un changement de posture. Et ça ne demande pas plus de moyens. Si ce n'est, une transformation intérieure de la part de l'adulte qui accompagne l'enfant, qu'il soit l'enseignant ou le parent. Et bien sûr, donc sans matériel, nous avons travaillé en fait avec une fois le tri effectué, nous avons travaillé principalement au départ avec des puzzles, avec des jeux de construction, avec des jeux de société. Ça pouvait être simplement des Mikado ou des jeux de memory, ou puis les plus grands, ça peut être des jeux de dames, puis après les échecs. Et vous voyez, tous ces petits jeux très traditionnels, je veux dire, on n'invente rien du tout, et bien, permettent aux enfants d'apprendre à choisir, d'apprendre à aller au bout d'une activité, d'apprendre à se contrôler, à respecter les tours de jeu, à résoudre les conflits de manière apaisée et constructive lorsqu'ils se produisent, et ils vont se produire, et c'est nécessaire qu'ils se produisent. Et vous voyez, tout cela... permettent véritablement aux enfants de retravailler, de remuscler, de réparer leurs fonctions exécutives qui sont en sous-développement, comme le dit le Centre de développement de l'enfant de Harvard. On parle de sous-développement exécutif, il faut avoir conscience de cela. Les enfants que nous avons dans les classes aujourd'hui, la plupart, sont dans un sous-développement exécutif. C'est ça l'état des choses.
Donc, déjà, réparer ça.
On répare ça quand on travaille donc avec ce matériel-là. Et après, il y a un effet de bascule qui opère. Les mois passants, attention, ça ne va pas se faire en deux jours. Les mois passants, donc ça demande justement à l'accompagnant adulte d'avoir de bonnes fonctions exécutives à son tour, de persévérer, de rester focalisé, de ne pas lâcher, d'accompagner l'enfant, mais dans une posture ferme. C'est-à-dire, ok, tu as choisi cela, c'est difficile pour toi, mais tu ne vas pas abandonner. C'est douloureux pour toi d'aller au bout, je l'entends, je le vois, mais je ne vais pas abandonner pour toi, tu iras jusqu'au bout, je t'aiderai, des copains t'aideront, mais tu iras jusqu'au bout, je n'abandonne pas pour toi. Ça demande vraiment de la part de l'adulte une posture de persévérance et de rigueur, et ferme aussi. Mais une fois cela dépassé, eh bien, il y a un effet de bascule qui opère, qui est vraiment saisissant, c'est-à-dire, et qui est constaté par les directeurs, par les enseignants, par les parents, les mots qui sont utilisés par les adultes qui constatent cela sont forts, ils parlent de transformation, de changement radical, les enfants sont d'abord beaucoup plus joyeux, beaucoup plus
contents d'aller à l'école.
Motivés. Ils sont motivés, mais de manière endogène. Ils veulent faire les choses pour eux, parce que cela les intéresse. Et ils ont envie de faire des grandes conquêtes. C'est-à-dire que là où avant on les poussait pour qu'ils entrent dans les fondamentaux, la lecture, l'écriture, etc., là, il n'y a plus besoin de les pousser. Au contraire, on leur court derrière. On ne va même plus assez vite, nous, pour eux. Et puis, au-delà de ça, ce sont des enfants qui deviennent donc capables de persévérer, qui deviennent autonomes véritablement, c'est-à-dire pas une autonomie superficielle en faisant des ateliers autonomes dans leur coin, non. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont capables de prendre des décisions, des décisions les plus appropriées dans un contexte donné, qui font preuve de discernement, qui sont capables de discipline, d'autodiscipline, de réguler leurs conflits de manière apaisée et constructive, même à 4 ans. C'est saisissant de voir ça, qui font preuve de beaucoup plus d'empathie. C'est vraiment, et ça se produit. Ce n'est pas mon livre, donc le sous-titre c'est permettre à l'enfant de se révéler. Donc une année pour tout changer, permettre à l'enfant de se révéler. Je l'assume, ce n'est pas une fausse promesse. Si et seulement si on prend les choses en face et on travaille les vrais sujets. Alors bien sûr on dira, et on l'a entendu, je l'entends de moins en moins, tant mieux. J'entendais dire, non mais s'il n'y a rien d'innovant là-dedans, elle n'a rien inventé. Mais à quel moment ai-je dit que j'invente
jamais
quelque chose ? Je n'invente rien. Au contraire, c'est là l'aspect révolutionnaire, c'est qu'il n'y a rien à inventer aujourd'hui de plus. On sait déjà tout. Maintenant, il faut faire. Il faut arrêter de vouloir inventer des choses, justement. Il faut enfin se saisir des informations qui sont à notre disposition, arrêter d'en chercher des nouvelles. Tout est déjà là. C'est les mettre en application, avoir le courage de l'essentiel, avoir le courage du bon sens et de rentrer enfin en contact, de rencontrer l'enfant. C'est ça, la révolution.
Quelque part, c'est un petit peu les programmes, entre guillemets, qu'on a mis en place et qui enferment un petit peu les enseignants, parce que voilà, il faut qu'ils cochent des cases à la fin de l'année, c'est bon, il sait faire ci, il sait faire ça. C'est bien, mais ça n'a jamais résolu le problème de l'échec scolaire. Pourquoi on n'essaye pas cette démarche qui est prometteuse et qui, au final, ne coûterait pas plus cher à l'éducation nationale ?
Elle ne coûterait pas plus cher, mais elle est coûteuse en termes de travail intérieur. Et on ne peut pas exiger, je pense, d'un seul coup à toute la nation de faire un travail intérieur quand les gens n'en sont pas là.
Et je pense que tout le monde a envie que les enfants aillent. Parce que tout le monde est gagnant quelque part. Quand on lit votre livre, on voit que les enfants vont volontiers à l'école. Les parents les amènent volontiers parce qu'il n'y a pas ces pleurs, il n'y a pas cette réticence. Les profs sont mieux parce qu'ils n'ont pas cette boule au ventre de se dire « punaise, ce matin, ils vont me retourner la classe ». Donc quelque part, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Et c'est vrai que, quelque part, je peux comprendre les enseignants qui viennent à cette démarche d'eux-mêmes parce que je pense que, voilà, ils sont que mieux dans leur métier, quoi.
Oui, mais il faut bien entendre que ça demande... On ne peut pas presser les gens d'entrer dans une telle démarche parce que ça demande... C'est une grande déstabilisation. Vous vous rendez compte, au tout début, quand ils se retrouvent face à leur classe et qu'ils se disent, ok, vraiment, là, qu'est-ce qui nourrit l'enfant dans ce que je propose depuis 10, 15, 20 ans. Et qu'on se rend compte bah, qu'il n'y a pas grand-chose. Vous vous rendez compte le tatou qui se dérobe sous les pieds?
Non, mais quelque chose, c'est quelque chose qu'on leur impose. C'est les programmes qui imposent ça, je pense, quelque part. Ce n'est pas l'enseignant qui dit « aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça ». Enfin, ils ont aussi une obligation, entre guillemets, de résultat de cochage de cases.
Oui, mais c'est tout à fait. Et c'est vrai qu'ils sont complètement coincés là-dedans parce qu'ils ils doivent répondre à des injonctions extérieures. Ils sont décentrés d'eux-mêmes. Et donc ils sont dans la peur, dans la course contre effectivement cocher la case au bon moment. Et d'ailleurs ça ils le dénoncent hein, beaucoup.
Bah oui, beaucoup.
Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais il n'empêche que ce qu'ils ont créé dans leur classe, les moyens qu'ils ont souvent fabriqués eux-mêmes avec leurs propres moyens, qu'ils ont même achetés avec leur propre salaire. C'est ça la réalité des enseignants. Ce qu'ils ont dans leur classe pour beaucoup, ils l'ont créé, fabriqué, ils l'ont récupéré dans la rue, ils l'ont acheté avec, ils réinvestissent leur salaire dans leur classe pour offrir tout ça aux enfants. Mais donc imaginons ce que c'est ce grand moment de déstabilisation quand ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont créé, leur classe, leur matériel, eh bien, a aidé bien sûr des enfants, mais pas autant que cela aurait pu l'être. Donc c'est une ils prennent 10, 20 ans de carrière dans leurs bras en disant mais qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant quoi. Il faut prendre le temps. Vraiment important de prendre le temps et que là aujourd'hui ceux qui sont prêts à entrer dans cette démarche là, enfin de cette révolution intérieure, le fassent. Cela en fait permet de montrer que c'est possible, permet ensuite d'épauler ceux qui vont suivre et entrer dans cette démarche là. C'est important que chacun y aille à son rythme comme dans une classe, parce qu'on il y a un effet de tutorat naturel qui va se mettre en place. Je pense que ce n'est pas tout le monde en même temps. C'est d'abord ceux qui le sentent, ceux qui sont volontaires, qui vont ensuite accompagner les autres. Et il y a un essaimage viral qui va se mettre en place, qui est déjà en place. Il y a des directeurs d'école qui me disaient encore il y a quelques mois, dont des directeurs français d'école qui me disaient « Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer lorsque un enseignant se met se lance dans cette démarche, il accompagne 10 autres collègues. »
Oui, ça fait appel d'air quand même. Je voudrais juste, Céline Alvarez, je rebondis sur ce que disait Samira, hein, qui parlait de votre matériel. J'ai eu la chance de recevoir ces kits pour apprendre à lire. Je trouve ça absolument formidable. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche, parce que vous le disiez vous-même, vous n'avez rien inventé, c'est clair, ce sont des lettres qu'on colle sur le frigo, qu'on colle sur les petits tableaux de nos enfants. Mais qu'est-ce que c'est efficace?
Oui, et eh ben écoutez, je suis ça aussi, je l'assume complètement. Il y a une journaliste encore qui me disait il y a peu de temps, mais écoutez, ces lettres, presque un peu gênée, elle me disait, enfin, il n'y a rien d'innovant, c'est des lettres en bois, certes, qu'on colle sur le frigo. Alors, ici, il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est qu'il y a des petits digrammes, le on, on, le ou, donc ce sont les.
Vous expliquez qu'il faut donner le son, pardon, je vous coupe, parce qu'il reste une minute d'émission.
Alors en fait, je le dis très clairement, ces lettres magnétiques, ce n'est pas un matériel pédagogique, c'est un message aux adultes. C'est leur dire, vous voyez les lettres que vous avez d'habitude sur le frigo, et ben, juste avec ça, les enfants peuvent entrer dans la lecture. C'est facile, il suffit simplement de donner le son des lettres. C'est ça l'objectif de ce matériel, c'est de dire aux adultes, donnons le son des lettres. Il n'y a pas besoin de matériel innovant, il y a simplement besoin d'un changement de conscience et de croyance de la part de l'adulte. Arrêtons de donner le nom des lettres qui bloquent les enfants, mais que ce soit après en majuscule, en minuscule, en attaché, en script, ce qu'on veut. Il faut simplement donner le son des lettres. Et ensuite, ils regardent ce qu'il y a autour d'eux, ils voient les mots qui sont écrits sur les magasins, les panneaux, etc. Et les enfants entrent naturellement dans la lecture. C'est insolent, c'est impertinent, mais je le dis, apprendre à lire, c'est facile, même si nous avons des chiffres d'entrée dans la lecture qui sont catastrophiques, d'échec scolaire, qui sont catastrophiques. Le problème, la faute, nous revient, elle ne revient pas aux enfants. Nous faisons des choses qui ne vont pas dans le bon sens.
Je vous conseille les trois petits livres que vous avez réécrits. Vous avez pu les découvrir pour ceux qui me suivent sur Instagram dans ma story. Le petit chaperon rouge, boucle d'or, les trois petits cochons, c'est vraiment super. Ça se lit tout seul dès la maternelle. Ce sont des lectures qui sont vraiment adaptées, qui sont écrites en lettres capitales d'imprimerie. C'est aussi aux éditions Les Arènes. Je suis désolée, on arrive en fin d'émission pour conclure. Céline Alvarez, vous faites vôtre la déclaration de Kofi Annan, alors secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dans son discours inaugural de la Convention internationale des droits de l'enfant en 89. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Vous faites votre.
C'est à notre portée.
Vous faites votre
et
cette
c'est
déclaration.
C'est à notre portée.
C'est à notre portée. Merci beaucoup, Céline Alvarez. Une année pour tout changer aux éditions Les Arènes. Merci d'avoir été notre invitée ce matin dans Les Experts. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore si nombreux, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site France Bleu RCFM et la commenter, bien sûr, sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.